Le texte du jour se trouve dans 2 Rois, chapitre 8, 2 Rois 8, versets 7 à 15. 2 Rois 8, versets 7 à 15. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi d'Aram, le roi de Syrie, était malade. On lui dit « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici ». Le roi dit à Hazaël « Prends avec toi une offrande, va à la rencontre de l'homme de Dieu, par lui tu consulteras Yahweh en disant « Survivrai-je à cette maladie ?» Hazaël alla à la rencontre d'Élisée, prenant avec lui une offrande de tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, soit la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Ben-Hadad, ton fils, le roi d'Aram, m'envoie à toi pour demander « Survivrai-je à cette maladie ?» Élisée lui répondit « Va et dis-lui, tu vivras. » Mais Yahweh m'a fait voir qu'il mourra. Le visage du prophète se figea. Il resta ainsi un long moment et l'homme de Dieu se mit à pleurer. Hazaël dit « Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur ?» Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux Israélites. » Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras leurs jeunes gens par l'épée, tu écraseras leurs enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. Hazaël dit, « Mais que suis-je, moi, ton serviteur, un chien pour faire une si grande chose ?» Élisée répondit, « Yahweh m'a fait voir que tu seras roi d'Aram. » Hazaël quitta Élisée, il revint auprès de son seigneur. Celui-ci demanda, « Que t'a dit Élisée ?» Il m'a dit, « Tu vivras. » Le lendemain, il prit une couverture, Hazaël la plongea dans l'eau, il l'étendit sur son visage et Ben-Hadad mourut. Hazaël devint roi à sa place. Voici un texte surprenant, n'est-ce pas ? Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui n'est pas toujours celle qu'on voudrait entendre, pas toujours celle qu'on voudrait recevoir, qui ne va pas forcément dans le sens où nous l'aurions voulu, qui ne nous caresse pas dans le sens du poil, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que les choses sont ainsi parce que nous connaissons notre statut, nos limitations, nous savons que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'entendre ce que tu as à nous dire tel que les choses sont et non pas tel que nous voudrions qu'elles soient, Seigneur. Alors cette parole aujourd'hui pour nous, Seigneur, nous voulons la prendre, la serrer dans notre cœur et la chérir, nous voulons la méditer, nous voulons l'exposer, nous voulons la comprendre. Nous te remettons, Seigneur, ce temps ensemble, te prions pour que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu nous diriges et que tu nous instruises, que tu nous parles, Seigneur, d'une manière spéciale, alors qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière pour bien comprendre ce texte. Vous vous souvenez certainement, pour ceux qui étaient là depuis quelques temps, ceux qui avaient entendu le début de cette série sur le cycle d'Élie et le cycle d'Élisée, on avait, presque depuis le début de cette série, on s'était arrêté sur la séquence de dépression d'Élie à Horeb. Vous savez, il était parti dans le désert et lorsqu'il se retrouve au mont Horeb, qu'il entend le murmure doux et léger, que Yahweh le console, que Yahweh le restaure, eh bien, il lui donne une mission, c'est celle qu'on retrouve dans 1 Roi, chapitre 19, versets 15 et 16, et la mission c'est « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. » Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël, et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Donc on voit la séquence, c'était, commence par Hazaël, ensuite va vers Jéhu, et puis enfin va vers Élisée, fils de Nimshi. Mais directement après cette narration, on ne retrouve qu'une seule chose, on ne retrouve que l'onction d'Élisée comme prophète à sa place. Rien en ce qui concerne Jéhu, fils de Nimshi, rien en ce qui concerne l'onction d'Hazaël. Et ça soulève une question, que se passe-t-il lorsque la parole de Yahweh n'est pas expressément obéie? Que se passe-t-il lorsqu'il donne un ordre et que cet ordre n'est pas exécuté? Est-ce que Dieu change ses plans? Loin s'en faut, comme ce récit nous le démontre. Et la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est qu'Élisée se rend à Damas. Élisée se rend à Damas. Et rien que ce fait-là devrait nous surprendre. Pourquoi est-ce qu'Élisée, comme ça, d'un seul coup, choisit de se rendre à Damas ? Le texte, comme souvent, est laconique. Il ne dit rien quant à ses motivations, mais il est tout de même surprenant qu'un prophète d'Israël, qui plus est recherché par le roi de Syrie dans les deux dernières séquences narratives, se rende comme ça dans la capitale du pays qui était ennemi. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre syro-éphraïmite, les Syriens qui font la guerre aux enfants d'Israël. Et dans cette séquence-là, on se dit, mais qu'est-ce que Élisée, un Israélite, en plus qui était recherché par le roi de Syrie pendant longtemps, qui voulait le mettre à mort, probablement le siège de Samarie a eu lieu à cause du prophète Élisée qui se trouvait dans la ville de Samarie, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend directement dans l'antre de l'ennemi. Il se rend directement dans la ville où le roi qui voulait le mettre à mort se trouvait. Il est peu probable que c'était un autre roi. C'est vrai que Ben-Hadad, c'était un nom de trône. Ce n'était pas le nom de la personne. Mais a priori, c'est le même roi que celui qui cherchait à le mettre à mort. Et les données extra-bibliques dont nous disposons ne nous laissent pas penser qu'il y a eu une importante succession de rois pendant le ministère d'Élisée, avant l'accession d'Azaël au trône. Le plus probable, en fait, c'est que l'auteur de notre texte, il cherche à souligner que le prophète de l'Éternel était absolument libre de sa circulation malgré les menaces. Dieu protège son prophète, il va où il veut, quand Dieu le veut, et personne ne peut mettre la main sur lui, à part si Dieu lui-même ne l'a décrété. Donc, Élisée peut y aller, il est libre de circuler, il peut se rendre à Damas, il peut se rendre en Syrie s'il le souhaite, sans aucune contrainte. Alors, qu'est-ce qui se passe à Damas? Il se passe que ce roi, ce Ben-Hadad, est en réalité malade. On voit que l'arrivée d'Élisée est concomitante, elle est simultanée avec cette maladie. Rien n'est dit par rapport à cette maladie, on ne sait rien à son sujet. On sait simplement qu'elle était suffisamment sérieuse pour que le roi se demande « Est-ce que je vais survivre ?» C'était donc le genre de maladie qui, probablement, pouvait amener le roi à perdre la vie. Alors on informe le roi qu'Élisée est arrivé à Damas et apparemment donc Élisée n'était pas venu en cachette. Alors est-ce que c'est à la suite de la requête du roi? Apparemment non. Est-ce que c'est Naaman le Syrien qui peut-être a fait requérir Élisée? On ne sait pas. Là encore, le texte ne précise rien, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'arrivée d'Élisée tombe au bon moment, à point nommé. Il arrive exactement quand le roi a besoin de lui ou quand le roi pourrait en tout cas requérir à ses services. Donc le texte s'ouvre vers quelque chose de très inhabituel, un prophète en pleine guerre, un prophète israélite qui se rend derrière les lignes ennemies et qui se rend même justement là où le chef des armées ennemies a son quartier général. Deuxième chose que l'on voit, et là encore c'est très surprenant, c'est ça nous a pas habitué à ce qui se passait dans les dernières séquences narratives, eh bien, c'est que le roi va envoyer un dénommé Azaël à la rencontre d'Élisée. Le roi envoie donc un dénommé Azaël à la rencontre d'Élisée. Regardez le verset 8. Le roi a des intentions particulières. Verset 8, le roi dit à Azaël, « Prends avec toi une offrande et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Par lui, tu consulteras Yahweh en disant, « Survivrai-je à cette maladie ?» Alors cet Azaël, c'était probablement un proche conseiller, peut-être un aide de camp, et à ce moment, il lui demande de se rendre vers l'homme de Dieu. La mention de l'homme de Dieu en elle-même véhicule une certaine forme de respect. D'emblée, on voit que l'attitude de Ben-Hadad vis-à-vis du prophète a réellement changé. Et en plus, il lui demande de prendre des offrandes avec lui, exactement comme Naaman en 2 Rois 5. Ça souligne encore une fois une forme de déférence vis-à-vis du prophète, homme de Dieu, on lui fait des cadeaux, on reconnaît tout d'un coup un certain statut chez le prophète. C'est vraiment surprenant. Souvenez-vous que c'était le chef des armées qui cherchait à mettre à mort Élisée il n'y a pas si longtemps. La maladie de Ben-Hadad, a priori, change complètement ses dispositions vis-à-vis du prophète. Avant, il voulait le tuer. Maintenant, il l'appelle homme de Dieu. On peut imaginer aisément que Ben-Hadad avait sans doute cherché à consulter les divinités locales avant de se tourner vers Yahweh, apparemment sans succès. Il était toujours malade et avant de se tourner vers Yahweh en désespoir de cause, il avait essayé probablement toutes sortes de techniques comme cette femme qui était restée malade pendant 12 ans ou cet homme près de la piscine pendant 36 ans cherchant peut-être un miracle. Rien ne se produit. vous voilà acculé et en désespoir de cause, il se tourne vers son vieil ennemi et le roi demande à Hazael de poser une question très simple. Est-ce que je survivrai à cette maladie ? Le roi, Ben-Hadad, dans toute sa fureur, était un mortel comme un autre. Et alors que la fin de sa vie approche, qu'il sent que tout lui échappe, que la force de ses doigts même est en train de le quitter, alors qu'il sait que ce monde est en train de le laisser passer, il se dit, toute cette course, toute cette frénésie avec laquelle j'ai voulu saisir cet homme, et si c'était ma seule chance de salut ? Vous savez, parfois on passe notre vie à courir derrière certains lièvres, et puis la fin de notre vie arrive très rapidement, à un point tel qu'on doit complètement changer notre braquet, complètement changer notre direction, parce qu'on se rend compte qu'on a fait fausse route pendant toute notre vie. Que la grâce de Dieu nous dirige à changer de voie avant que nous passions par des moments difficiles pour ce faire. Je crois que la maladie, en particulier celle de ce roi, mais pas seulement, la maladie est aussi un héros qui nous exhorte à nous tourner vers Dieu. C'est C.S. Lewis qui disait que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu dans un monde déchu. Parce que tu n'écoutes pas, parce que tu n'es pas prêt à recevoir la parole de Dieu, parfois Dieu parle par la souffrance, comme dit Job. Il vient crier à ton oreille, il prend un mégaphone, comme dans les manifestations. Vous savez, les manifestations, ce sport dont mon peuple, les Français, sont les champions du monde. On prend un mégaphone et on se met proche de toi pour que tu entendes le message. Et souvent, quand tu souffres, c'est exactement ça qui se passe. Dieu s'approche de toi d'une manière spéciale dans la souffrance et te dit à l'oreille, « Tourne-toi vers moi ». Ta vie a une fin, il y a des limites. À un moment, tu devras rendre des comptes. Et c'est exactement, on a le sentiment, ce que ce roi entend, puisque à ce moment précis, il se dit, il faut que je consulte Yahweh. Il faut que j'aille jusqu'à consulter le Dieu de mes ennemis. Chers amis, vous passez certainement comme le roi Ben-Hadad par des moments difficiles et des moments de souffrance dans votre vie divers et variés. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une maladie spéciale qui vous étreint, une infirmité, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous qu'au travers de la souffrance, Dieu nous parle, il nous donne le message que nous sommes des créatures finies, qu'un jour nous allons quitter ce monde, que nous n'avons pas tous les pouvoirs, que nous ne possédons pas notre destinée entre nos mains. Notre futur ne nous appartient pas et je sais que vous êtes fait du même bois que moi, que vous vous levez le matin en vous disant « Aujourd'hui, je tiens mon avenir, je fais des plans. » Souvenez-vous de l'avertissement de Jacques aux riches, à vous qui disiez « J'irai dans telle ville et j'irai dans telle autre et je ferai des profits. » Insensé, vous devriez dire « Si Dieu veut, vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » Voilà ce que vous dites. Voilà ce que Dieu dit. Nos projets et nos plans sont dans les mains de Dieu. Et il serait fou d'attendre la souffrance pour chercher la face de Dieu. C'est une grâce de souffrir, vu sous cet angle. Mais que nous puissions chercher la face de Dieu avant de passer par des moments comme cela. Souvenons-nous de la finalité de notre vie. Souvent, je crois que l'existence de l'homme ou de la femme peut être comparée à celle d'une allumette. Tu la craques, ça flambe. Tu peux éventuellement jongler un tout petit peu pour gagner quelques millisecondes de plus dans ta main, mais invariablement, elle finira par te brûler les doigts. Ainsi est ta vie. Tu ne peux faire rien d'autre que chipoter quelques pouillèmes. Elle s'éteindra et tu iras à la rencontre de ton Dieu. Et ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu ? Est-ce que tu es prêt à passer par des moments comme ceci. Notez également l'ironie dans ce texte, la question que pose Ben-Hadad est exactement identique à celle que se posait quelques chapitres avant le roi Akasia. Vous vous souvenez, Akasia, c'est le premier chapitre du deuxième livre des rois. C'était ce roi qui était tombé par le treillis de sa chambre haute, de la hauteur de sa chambre, qui était tombé et qui se demandait s'il allait mourir. Mais ce roi Akasia, le roi d'Israël, le roi du peuple de l'Alliance, qu'est-ce qu'il fait ? Il va consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écrone, et il se fait reprendre pour cela. Mais ici, nous avons un roi païen, un peuple en dehors de l'Alliance qui s'en va chercher à consulter Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Et à mon avis, c'est pas du tout un hasard si ça se retrouve mentionné aussi explicitement avec presque la même phrase qui est mise dans la bouche des mêmes rois sur des maladies probablement différentes. Mais on a le sentiment que d'un côté comme d'un autre, on a un roi qui aurait dû être pieux, dont on attendait qu'il soit pieux, dont on attendait qu'il soit fidèle à l'Alliance. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte de l'Alliance, il la brise en allant consulter les Baals. De l'autre, nous avons un roi païen qui souhaitait, qui passait sa vie à consulter les Baals et qui, vers la fin de sa vie, se tourne à demander l'avis du roi, du grand roi, de Yahweh lui-même. Cette ironie place une nouvelle fois le lecteur devant la désobéissance et la rébellion répétée du peuple d'Israël. Donc voilà la requête du roi, il mandate son serviteur Hazaël, et Hazaël donc part ventre à terre à la rencontre du prophète, et nous dit le texte, il prend avec lui une offrande de tout ce qu'il y a de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux paraît disproportionnée pour plusieurs commentateurs. C'est possible que ce soit une corruption scribale, pardon, il y en a d'autres dans ce texte, mais celle-ci, elle n'est pas confirmée par les manuscrits. Apparemment, l'offrande que Hazaël ramène au prophète est absolument considérable, ce qui laisse réellement à penser que le roi de Syrie, jouait son va-tout et qu'il était prêt à tout donner pour guérir. On a le sentiment que c'était son dernier espoir, c'est ce qui se passe ici. Et dès qu'il se retrouve en présence d'Élisée, il vient, il présente la requête de son maître Ben-Hadad au prophète. Il lui dit « Ben-Hadad, ton fils, notez le « ton fils », le roi d'Aram, m'envoie pour demander « survivrai-je à cette maladie ?» Ici encore, regardez toute la déférence, même dans la transition, dans le message qui est envoyé par Hazaël. Il dit que Ben-Hadad, qui est quand même le roi d'Aram, la puissance forte, celle qui était proche de dominer, qui avait tenu un siège de Samarie, qui avait une armée puissante dans la région, eh bien Ben-Hadad est ton fils. Exactement comme le roi d'Israël, à un moment donné, appelait le prophète « mon père ». Ici encore, c'est une expression qui souligne cette volonté de soumission, cette volonté de déférence que le roi de Syrie a envers le prophète d'Israël. Les tables ont tourné, les cartes sont redistribuées, le roi est malade, il est prêt à tout abandonner pour se tourner vers Yahweh. Mais ce qui est vraiment surprenant, encore plus surprenant que toute la séquence qu'on vient de lire, c'est la réponse d'Élisée. Regardez ce qu'Élisée lui répond. Il lui dit « Va et dis-lui, tu vivras. » Mais Yahweh m'a fait voir qu'il mourra. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que le prophète est en train d'expliquer à un messager païen qu'il doit aller mentir à son maître? Est-ce que c'est ce que le prophète dit là? Bah dites-vous que si vous vous êtes posé cette question en lisant ce texte, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait. À vrai dire, les commentateurs juifs du Moyen-Âge, ils étaient vraiment embêtés par ce texte à un point tel qu'ils ont modifié la manière dont ce texte devrait être lu. En modifiant simplement une voyelle, je ne vais pas rentrer dans l'argumentation technique ici, ils arrivaient à faire lire le texte en disant tout simplement « tu ne vivras pas » plutôt que « tu vivras ». Au lieu de dire « va et dis-lui tu vivras », il disait « va et dis tu ne vivras pas ». Il changeait le pronom personnel en négation, si vous voyez ce que je veux dire. Mais cette lecture, elle est erronée, et de toute façon, le problème, c'est que si vous devez appliquer cette lecture-là au texte, qui n'est, je le précise, attestée par aucun manuscrit, à part ces corruptions médiévales, eh bien, vous devriez finalement penser que le discours d'Élisée est redondant, ça donnerait quelque chose comme « tu ne vivras pas, mais tu mourras ». Ça n'a aucun sens, vous voyez, ça n'irait pas dans le flux rhétorique du texte. D'autre part, et j'insiste bien là-dessus, c'est pas avéré que Élisée demande à Hazaël de mentir. D'ailleurs, au passage, il ne lui suggère pas non plus de tuer son maître. Il lui affirme plutôt ce qui va se passer. Il lui dit « Dis-lui, tu vivras. » Autrement dit, tu ne mourras pas de cette maladie. Mais moi, je te dis, Dieu m'a montré qu'il mourra. Et il explique pourquoi après. Mais c'est absolument pas un mensonge. En réalité, le roi Ben-Hadad allait survivre à sa maladie, mais il allait mourir d'une autre cause. Vous l'avez lu avec moi, ce texte qu'on a lu au début, c'est exactement ce qui va se passer. Ben-Hadad allait vivre, Ben-Hadad allait guérir de sa maladie, mais Élisée sait qu'il va mourir, car une personne entend le tuer, et probablement depuis longtemps, et cette personne, c'est Hazaël lui-même. Hazaël va aller annoncer la bonne nouvelle au roi, « Tu vas vivre », mais Hazaël n'est pas satisfait que le roi vive, Hazaël va tuer le roi. C'est ça ce que dit le prophète, et rien d'autre. Il ne s'agit pas d'un encouragement à mentir, il ne s'agit pas d'un encouragement à tuer le roi, il s'agit de dire à Hazaël, je sais ce que tu vas faire. Voilà ce que dit Yahweh, mais voilà ce que toi tu vas faire. Ainsi, ce n'est pas tant un ordre que donne Élisée à Hazaël, il lui raconte plutôt ce qu'il a vu, et ce qu'il a vu est corroboré par la suite du récit. Alors le visage du prophète se fige, littéralement, il devient sans expression, et ce pendant un moment significatif, puis il tombe en pleurs. En lisant ce texte, j'ai pensé à mon fils, souvent il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, j'ai l'impression qu'il va sourire, je le regarde, son visage est sans expression, et tout d'un coup il pleure, et tu sais pas pourquoi il pleure, mais c'est comme ça. C'est déroutant quand ça vient d'un enfant, ça doit être encore plus déroutant quand c'est le prophète de l'Éternel qui pleure de cette manière-là. Regardez, Hazaël, il est gentil, Hazaël, il est plein de bonne volonté. Il s'approche du prophète, il lui dit « Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur ?» Et c'est à ce moment que Élisée lui révèle exactement et en détail ce qu'il sait sur l'avenir. Il lui dit « Je sais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras leurs jeunes gens par l'épée. Tu écraseras leurs enfants. Tu éventreras leurs femmes enceintes. » L'image est terrible. On en a eu quelques aperçus dans les passages précédents, lorsqu'on a vu notamment le siège de Samarie avec des mères qui étaient prêtes à manger leurs enfants. Je ne vais pas revenir sur mon discours à ce moment-là, mais c'est la guerre. C'est la guerre avant la Convention de Genève, et faites quand même la Convention de Genève, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et regardez les horreurs qu'on y retrouve, c'est exactement le genre de choses qu'on a ici. Et vous le retrouvez en Afrique, et vous le retrouvez dans certaines régions de Chine, et vous le retrouvez dans presque toutes les zones de guerre, parce que le cœur de l'homme est le même partout, et non, il n'a pas évolué pour le bien, le monde est pire qu'il n'a jamais été, et il continuera jusqu'à sa perte. Je me souviens de ce que j'ai entendu, de ce que mon grand-père a vu. Vous savez, mon grand-père, je vous l'ai dit à certains d'entre vous, vous ne le saviez peut-être pas, mais mon grand-père est d'origine juive. Une grande partie de ma famille est morte dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz. Et mon grand-père, lui, a survécu à cela, mais il avait fui dans un premier temps la Pologne parce qu'il y avait, à cette époque, dans les années 30, des exactions contre les Juifs. Mon grand-père n'a jamais été quelqu'un de très religieux, il ne s'intéressait pas tellement à toutes ces choses-là. Et réellement, ce qu'il cherchait à fuir, c'était la violence. Moi, il ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'un jour, une seule fois, il a parlé à son aîné, sa fille aînée, c'était ma mère. Et il lui a raconté une fois, presque en pleurs, ce qui s'était passé pendant cette période. Et l'une des choses qu'il avait vues, qui lui tournait en boucle dans la tête, c'était comment certains Polonais avaient attrapé des enfants, les mettaient à mort, des petits nourrissons, et ouvraient le ventre des femmes enceintes. Il l'a vu de ses yeux. On parle ici du XXe siècle, on parle de l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant de la part du cœur de l'homme ? Et on vit dans une société aujourd'hui qui semble être pacifiée, on a des vertus d'amour, des valeurs, on aime l'arc-en-ciel, si vous voyez ce que je veux dire, ça nous plaît, mais si vous croyez que le cœur de l'homme a changé, comme je vous le disais il y a quelques semaines de ça, il est tout à fait possible que si on se retrouvait dans une zone de guerre, si on se retrouvait assiégé au point tel que la ville de Samarie a été assiégée au point qu'une mère a été jusqu'à manger son fils, nous ne savons pas ce que nous ferions. Ça nous va bien de réfléchir lorsqu'on a l'estomac plein et le cerveau apaisé ou même abruti par Netflix ou je ne sais quelle chaîne, vous voyez ? Mais nous ne savons pas ce que c'est que la douleur et la souffrance. Nous ne savons pas jusqu'à quelles extrémités cela pourrait nous pousser. Nous devrions bien prier pour que la grâce de Dieu nous en préserve, car nous ne savons pas ce que nous ferions. Il y a une chose que si nous sommes chrétiens, nous savons, c'est que nous sommes des pécheurs absolument pas différents des gens qui ont commis ces exactions-là. Absolument pas différents de ces gens-là. Non seulement, donc, Élisée prédit que le conflit entre Israël et la Syrie durera, mais il prédit aussi que Hazaël va y jouer un grand rôle, mais qu'en plus Israël sera battu, que ses villes seront ruinées, et ce qui va se passer pour le peuple de l'Alliance, ça va être terrible, horrible, dégueulasse, et c'est comme si Élisée le voyait de ses yeux. Imaginez que vous pourriez voir votre futur, et voir ce qu'on ferait à vos enfants, et voir ce qu'on ferait à votre famille dans un futur proche. Vous imaginez voir une chose pareille, Élisée l'a vu, ses frères, ses sœurs, ses amis, les gens pour qui il pleurait, le peuple d'Israël, les gens qui voulaient ramener à la raison, ramener à Dieu, il les voit se faire décimer, et de ses yeux ou de ses oreilles, je ne sais pas comment le mode de révélation a eu lieu, il entend ce qui va se passer pour eux. Quelle terreur, quelle horreur! Ça, c'est le genre de truc pour lequel vous ne voudriez pas être un prophète. Tout le monde veut être un prophète aujourd'hui dans certains milieux, n'est-ce pas? Mais pour entendre des choses pareilles ou voir des trucs aussi terribles, est-ce que vous croyez que ça serait réellement plaisant pour en plus que tu ailles les avertir après et que personne ne se détourne de ces mauvaises voies? Oh, croyez-moi, la condition d'un prophète, elle n'est pas si enviable que cela. On aurait pu d'ailleurs penser que le prophète aurait pu se réjouir de la ruine d'Israël. Après tout, est-ce que ce n'était pas ce peuple qui lui voulait du mal avec ses nobles, qui cherchait à le mettre à mort, qui cherchait à mettre à mort les communautés de prophètes, qui avait cherché à mettre à mort Élie? Mais Élisée, non seulement ne pense pas comme ça, mais il reste attaché au sien, à l'alliance de son Dieu. Il voudrait que les choses soient différentes. Sa tristesse est profonde. Vous ne pouvez pas imaginer la grosseur de la boule dans la gorge qu'il avait lorsqu'il a reçu cette révélation-là. Il pleure. Montrez-moi un seul prophète qui a pleuré à part lui. Peut-être Jésus lui-même, direz-vous, voyant quelle allait être la condition de ceux qui se refusent à lui. Il pleura de compassion en voyant tous ces gens qui avaient vu Lazare mort. Il pleurait de compassion en voyant la mort qui frappait ces hommes et ces femmes à cause du péché. Lui était venu pour régler le problème une fois pour toutes. Notre Sauveur est Christ. Mais Élisée aussi pleure. Il voit, il aurait voulu que les choses soient différentes. Il voudrait que son peuple ne vive pas cela. Et je crois qu'il y a une bonne application pour nous. Je vais vous dire franchement, je crois qu'il y a même une excellente application pour nous. Parce que le prophète Élisée, son propre peuple, ses co-religionnaires, les gens qui étaient censés être dans le même système d'adoration que lui, des gens qui étaient censés être dans la même alliance que lui, c'était ces gens-là qui avaient le plus cherché à le faire mourir. Et regardez encore, il pleure. Et si, en quelques points, vous êtes découragé par l'Église, et s'il y a des choses qui vous énervent, si vous avez envie parfois de lâcher l'affaire, d'abandonner, de lever le pied, de ne plus venir, si vous laissez le découragement vous envelopper, souvenez-vous de l'attitude du prophète. Souvenez-vous de sa persévérance. Souvenez-vous de ses pleurs pour le peuple de l'Alliance. Seriez-vous capable de pleurer comme cela pour l'Église, pour les gens qui parfois vous ont fait tellement de mal? Mais souvenez-vous du prophète. Souvenez-vous de ses pleurs et souvenez-vous de comment il s'est consacré en pleurant pour ce peuple d'Israël qui pourtant lui voulait tant de mal. Azaël répond, et sa réponse, à vrai dire, consiste avant tout à une dévalorisation de sa personne. Il se compare à un chien, une expression qui était idiomatique, on la retrouve aussi dans les paroles de David. Vous vous souvenez, David qui parle à Saül, qui dit « Qu'est-ce que ton serviteur? Qui est-ce que tu poursuis? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est une puce ?» C'était donc une expression idiomatique, vous savez, pour dire « Oh, moi, je ne suis rien du tout. Qui suis-je ?» Il semble qu'il n'ait aucune prétention à faire ce qu'Élisée prétend qu'il va faire. Mais en fait, sa remarque en dit long sur le fond de son cœur. Regardez ce qu'il dit. « Mais qui suis-je, moi, ton serviteur, un chien, pour faire une si grande chose ?» Voilà exactement ce que constitue l'oracle d'Élisée à ses yeux. Là où nous voyons des horreurs, là où les images, même le fait de les lire, ça nous saisit à la gorge, lui, il appelle ça des grandes choses. Élisée sait bien pourquoi Azaël fera cela. Il lui dit « Yahweh m'a fait voir que tu seras le roi d'Aram ». La parole de Yahweh à Élie, donc, est sur le point de s'accomplir, malgré que ce dernier n'a jamais oint Azaël comme roi sur la Syrie, et malgré qu'Élisée, a priori, ne l'a jamais fait non plus. Elle s'accomplit à la lettre, selon son plan, y compris quand il s'agit d'un avenir aussi funeste. C'est un rappel pour nous, on l'a vu jusqu'ici, mais c'est un rappel encore une fois que le plan de Dieu est également composé de choses funestes comme celle-ci. Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est lorsque le serviteur Azaël revient auprès du roi, son comportement est complètement conforme à ce qu'Élisée avait prédit. Azaël donc revient auprès du roi et il fait donc au roi la réponse qu'Élisée lui a suggérée. À peine revenu auprès de son maître, le roi s'enquiert « Qu'est-ce que t'a dit le prophète ?» Eh bien, il lui répond simplement « Tu vivras ». Il ne lui mentionne pas les autres développements, il ne lui dit pas le reste que Élisée lui a dit. À aucun moment, il le met en garde Il est évident que si le prophète n'a pas suggéré à Hazaël de mentir, Hazaël, en tout cas, il se garde bien de lui dire le reste de ce que le prophète lui a dit. Il choisit, lui, sciemment de dissimuler le reste de ce que le prophète lui a annoncé. Il garde cette information pour lui-même. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir de manière à prendre le trône. Ce n'est pas le prophète qui est présenté négativement, c'est bien Hazaël. Et regardez verset 15. « Le lendemain, Hazaël prit une couverture, il la plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi. » Alors, les commentateurs ne sont pas absolument d'accord sur la manière dont Ben-Hadad est mort, parce que le terme qui est traduit par vos versions par couverture, « makbel » en hébreu, eh bien, il reste obscur. Il pourrait s'agir peut-être d'une sorte de moustiquaire ou quelque chose d'assimilé qu'ils mettaient pour protéger leur lit. Bref, il prend ce linge et si on suit bien ce que dit le texte, il le trempe dans l'eau en l'appliquant sur le visage du roi. Il y aurait donc une sorte d'étouffement. C'est donc, à mon avis, là, l'idée du texte. Hazaël tue son maître avec préméditation et il le fait conformément à la parole d'Élisée. On peut imaginer que la maladie du roi faisait naître comme des courtisans qui étaient autour de lui et qui n'attendaient que sa mort pour prendre le pouvoir. Hazaël, sachant qu'il allait guérir, a décidé de précipiter les choses. Il le tue avec préméditation, conformément à la parole d'Élisée. Ainsi donc, par cette mort violente, Hazaël s'empare du pouvoir et il devient roi sur la Syrie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est l'un des rares événements dont on a des traces en dehors de la Bible, puisque Hazaël, son nom est documenté dans les sources assyriennes, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans les sources assyriennes il est appelé le fils de personne, autrement dit un homme qui n'avait pas de lignée, de généalogie qui pouvait justifier son accession au trône, autrement dit quelqu'un qui a pris le pouvoir d'une manière qui semble être celle qui nous est décrite dans la Bible. Les tablettes rapportent d'ailleurs sa relation de vassal avec la Syrie, et il semble dire que son accession au trône s'est faite immédiatement après la mort de Ben-Hadad. Rien de plus dans les tablettes assyriennes, mais ça corrobore, au moins jusqu'à un certain point, ce que l'on retrouve ici dans la Bible. Ainsi donc, chers amis, la parole du prophète s'accomplit, et elle s'accomplit, à vrai dire, même quand elle ne plaît pas au prophète. Elle s'accomplit même quand elle le plonge dans une profonde détresse. Le prophète n'a aucun pouvoir sur ses oracles. Le prophète n'a aucun pouvoir sur la parole qu'il délivre. Le prophète n'a absolument aucun pouvoir sur le message dont il est le dépositaire. C'est Yahweh, c'est lui qui l'inspire et c'est lui qui accomplit ce qu'il dit. Élisée n'a aucune maîtrise de cela. Et je crois que quelque chose l'illustre de manière parfaite. Vous vous souvenez ce qui s'est passé ? En 1 Roi 19, on l'a lu au début, vous avez Dieu qui demande à Élie d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie, d'aller oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël, et d'aller oindre Élisée comme prophète à sa place. La seule chose que l'on voit dans la suite, je l'ai dit, on voit Élie qui va oindre Élisée, ça se l'arrête là. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Élisée qui se retrouve confronté à Hazaël. Est-ce que vous voyez la moindre onction ? Aucune onction ! Ni Élie, ni Élisée n'ont oint Hazaël comme roi de Syrie. Apparemment, ni l'un ni l'autre ne voulait oindre un tel personnage qui allait faire autant de mal au peuple d'Israël, qui allait détruire le peuple d'Israël. Et franchement, on le comprend. Qui voudrait oindre quelqu'un comme cela ? C'est comme si on disait, en 1932, on dit « Va en Allemagne et tu oindras Hitler comme maître de l'Allemagne ». Ça fait vachement envie de faire cela, n'est-ce pas ? Mais c'est exactement ce qu'il demande à Élisée, plutôt à Élie, de faire. Mes chers amis, de toute évidence, les états d'âme, les atermoiements des prophètes n'ont absolument pas annulé, ni même retardé, le plan de Dieu. Hazaël était bel et bien un instrument de jugement dans les mains de Yahweh. Vous continuez la lecture du livre des rois, ce qu'on ne fera pas ensemble, mais continuez-la chez vous et vous allez voir la fonction qu'il a eue comme bâton de jugement contre Israël. Les dispositions de cœur du prophète n'entament jamais le plan de Dieu. Et j'aimerais que vous vous souveniez de cela. Même un prophète qui résiste fera la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans ce texte. C'est aussi ce qu'on voit dans l'histoire de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas et lui dit « Va où ?» À Ninive, la grande ville située complètement à l'est du monde connu. Que fait Jonas ? Il prend un bateau, il s'enfuit à Tarsis, à l'ouest du monde connu. Et le texte dit « Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. » Mais où irais-je ? Où me cacherai-je loin de ta face ? Vous ne pouvez pas, plus que ces prophètes, esquiver le plan de Dieu et votre responsabilité vis-à-vis de l'appel de vie chrétienne qui vous est adressé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et quand parfois vous êtes découragé, que vous regardez à votre vie, que vous voyez le péché rémanent dans votre vie, que vous voyez tous les aspects de votre vie qui s'entrechoquent et qui vous laissent à penser que vous n'êtes pas un bon chrétien. J'ai une bonne nouvelle d'ailleurs au passage, un bon chrétien, ça n'existe pas. Et avec des chrétiens sauvés par grâce, des pécheurs qui sont rachetés par le sang de Jésus. Mais si vous êtes comme moi et que dans certains moments vous doutez même de votre qualification juste pour le service quel qu'il soit, et que vous vous dites « Seigneur, j'arrive pas à avancer avec toi, je lutte terriblement dans ma marche, mes péchés m'obsèdent, je souffre, j'en ai marre de faire un pas après l'autre et de toujours retomber dans les mêmes travers. » Si vous pensez à cela, vous vous êtes déjà dit dans votre vie « J'aimerais bien partir jusqu'au bout de la terre et ne plus avoir à être confronté à tout ça. » Oh, je me le suis dit souvent, vous savez. Je vous le confesse, séquence confession du haut de la chaire aujourd'hui. Mais vous savez ce qui m'a retenu de le faire ? Je me suis dit que si je partais aux extrémités de la terre, il y aurait quelqu'un que j'emmènerais avec moi-même. Ben, c'est moi. Et les problèmes resteraient. Vous savez, chers amis, que vous ne pouvez pas éviter votre propre présence. Combien moins pourriez-vous éviter la présence omnisciente de Dieu ? Plutôt que de résister à son plan qui s'accomplira de toute manière, nous ferions bien de lui demander la grâce de nous apprendre à nous soumettre, à diminuer devant lui, à le laisser diriger notre vie, à prendre le temps de le laisser prendre le contrôle, parce que le contrôle, il l'a, et toute forme de résistance ne sert à rien d'autre qu'à nous faire plus de mal qu'autre chose. Qu'attendrons-nous, chers amis, d'être malades et dans la souffrance, comme le roi Ben-Hadad, et nous tourner vers lui alors qu'il sera peut-être trop tard ? Nous ne sommes jamais à l'abri de voir notre vie passer devant nos yeux d'un instant ou un autre. N'est-ce pas là ce à quoi ce texte nous encourage ? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous êtes en froid avec lui aujourd'hui, si vous avez mis en sommeil votre appel, votre sanctification, de tels textes nous rappellent la brièveté de notre existence et nous attirent, nous appellent, nous exhortent avec fermeté à plier le genou devant Dieu et à reconnaître sa suprématie dans nos vies en premier lieu et sur tout l'univers créé, sur son plan absolu. Dans cette perspective-là, chers amis, ne nous endurcissons pas. Ne quittez pas cette église, ne quittez pas cette salle aujourd'hui sans avoir remis votre fardeau au Seigneur, sans avoir plié le genou devant lui. Il est fidèle à son alliance. Il pardonne. Tournez-vous vers lui. Confessez-lui vos péchés. Résistez au diable et il fera de vous. Prions. Seigneur, notre remercions et nous te rendons grâce pour ce texte qui nous rappelle combien nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce pour ne pas nous endurcir, de ta présence pour ne pas défaillir. Nous avons besoin que tu nous portes, Seigneur, nous avons besoin que tu nous diriges, que tu nous aides, que tu nous accompagnes à plier le genou devant toi, parce que sinon nous serions bien les premiers à nous endurcir. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre que ton plan vaut mieux que toute autre chose, même quand nous le regardons, Seigneur, comme quelque chose de néfaste et de mauvais pour nous. Seigneur, apprends-nous à voir comme tu vois. Apprends-nous, Seigneur, à considérer l'éternité comme toi tu la vois. Père, je veux te demander et te prier de mettre ta bonne main, d'accorder ta grâce, Seigneur, à ton peuple, afin que nous nous aimions les uns les autres, mais aussi, Seigneur, que nous apprenions ensemble à nous encourager à vivre selon tes commandements, mon Dieu, à accepter que ce que tu fais est parfait, que toutes les circonstances que tu disposes sont bonnes pour ton Église. Seigneur, encourage-nous dans cette perspective aujourd'hui et rappelle-nous combien il était bon, Seigneur, pour Élisée de se soumettre à toi parce que ton plan s'accomplit toujours. Seigneur, nous n'avons aucune raison de nous endurcir contre toi. Tout ce dont nous avons besoin, mon Dieu, c'est de ta grâce. C'est pourquoi nous te prions pour que tu nous conduises, que tu nous diriges et que tu rendes notre volonté malléable pour que nous puissions nous conformer à la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.